niveau du tourisme durable, sport et loisirs pratiques traditionnelles. Donc nous avons diagnostiqué des atouts, une complémentarité touristique entre la zone urbaine et la zone rurale, un contrat montagne, une démarche de développement en cours comprenant de nombreuses actions en faveur des activités de pleine nature, l'existence d'équipements structurants lourds, stations de moyenne montagne, 700 km de sentiers inscrits au PDIRPR, sur des canons, sur les cantons de Courcegoules et de Saint-Auban. Des opportunités, un fort potentiel d'activités de pleine nature existant déjà, randonnée, pêche, chasse, une possibilité de sensibilisation à l'environnement à travers des pratiques de pleine nature. L'avant-pays offre un fort potentiel de consommation de produits touristiques. Un lien possible entre le développement touristique et débouchés sur les activités agricoles et artisanales. Là, on rejoint un petit peu notre premier débat. Présence de villes comme Grasse, Vence et Tourette-sur-Loup qui possèdent une image forte et pouvant devenir des villes-portes de ce futur PNR. On a diagnostiqué également des carences, puisque en termes de capacité d'accueil sur le haut pays, manque d'hébergement classique en hôtel, un potentiel d'activité méconnu. Des menaces, l'augmentation des conflits d'usage et impacts environnementaux liés à la croissance de certaines activités de pleine nature, escalade, canyoning, une incompréhension entre habitants, visiteurs du fait d'un rapport différent à la nature et aux territoires ruraux, et l'arrière-pays constitue un potentiel d'espace de récréation pour les habitants du littoral. Si tu veux bien... Voilà. Donc au niveau des enjeux, la définition d'une stratégie de gestion et de développement maîtrisée, d'activités touristiques cohérentes avec le respect du territoire, de l'environnement et des habitants, c'est un enjeu qui me paraît majeur. Le développement d'activités touristiques, commerçantes et ou d'hébergement en relation avec la découverte des patrimoines, pratiques traditionnelles et de la culture du territoire. Le développement des capacités d'accueil en milieu rural, hôtels, gîtes d'étape. Moi, j'aurais rajouté à ce niveau hôtellerie de plein air, donc camping, par exemple. Je pense que ça manque. La mise en place d'une gestion concertée des activités de pleine nature, y compris motorisées, afin de partager l'espace et de trouver le juste équilibre entre l'ouverture au public, la préservation des espaces et espèces naturelles sensibles. Le développement des produits labellisés accueil du parc, la valorisation de l'arrière-pays auprès des populations urbaines en lien avec les villes portes attractives situées aux abords Grasse, Vence, Tourette-sur-Loup, on en a parlé tout à l'heure. Le développement d'un tourisme appréhendé comme un complément d'activité et source de financement pour d'autres activités pérennes, agricoles notamment. L'utilisation de la multiplicité des activités de pleine nature offertes par le territoire comme une image pour la valorisation touristique du territoire, ski, randonnée, pêche. Et en dernier point, la sensibilisation des touristes au respect du territoire et de ses habitants et de ses patrimoines. Alors moi, pour lancer le débat, je pense que nous avons des axes transversaux avec d'autres commissions au niveau de la valorisation du patrimoine naturel et culturel. Je pense qu'il faudra que nous puissions y retravailler. Dans les axes principaux, alors je ne sais pas où on pourrait l'insérer. Je pense que si on veut un tourisme maîtrisé, mais accueillir des touristes, il faut pouvoir les accueillir, les renseigner, les diriger. Donc il va falloir trouver une petite place pour la signalétique, les axes, on vous laisse parler parce qu'il y avait des questions.
Un sur les enjeux donc que vous avez vus, donc qui vous ont été lus. Donc on peut commencer par le premier, éventuellement, pour savoir si le premier vous convient bien, s'il répond bien à vos attentes. Monsieur.
Si la gestion doit être durable, le tourisme doit être également durable. Je pense qu'il faut que ce soit écrit. Je préside une association qui s'appelle Forestour, qui a pour mission de développer justement les activités de tourisme durable, c'est-à-dire responsable vis-à-vis de la gestion et du respect de la biodiversité. Donc ça me paraît important. Oui.
Je pense effectivement que dans toutes les activités économiques de développement qui vont être mises en place, il faut que la notion de durable et de pérenne soit inscrite effectivement, et la notion de pérennité. Oui, voilà.
Sur le point 4.
Ah. Voilà.
Pour essayer d'être un peu plus rapide. Alors, sur le point 1, madame.
Oui, sur le point 1, moi, je rajouterais la notion de biodiversité. Il faut que cette stratégie respecte la biodiversité, qu'elle ne la réduise pas. Voilà. Oui, enfin, le mot biodiversité n'est pas marqué, et je trouve que ce serait bien de le rajouter.
D'accord, on peut peut-être le rajouter, hein.
On peut rajouter biodiversité. Bon, pensez aussi une chose, c'est que nous avons des commissions qui travaillent aussi dans d'autres salles et on verra apparaître ces thèmes aussi en biodiversité. Je rappelle aussi qu'on est là autour d'un projet de parc. Et bien entendu, le parc, vous avez vu, protection, développement. Donc, un certain nombre, le côté environnement, biodiversité, responsabilité et le fondement, je dirais, du parc. Alors, sur le 1, est-ce qu'il y a encore des commentaires ? Monsieur.
Un,
3, 4 et 8.
Oui.
Je me permets juste de dire, le 1, on est sur la notion de la définition d'une stratégie.
Oui.
C'est-à-dire qu'on insiste sur le cadre formel et conceptuel. Quelle est la stratégie de ce développement du tourisme durable ? On est sur écrire une stratégie. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un document fédérateur qui fixe la stratégie de développement tourisme ? Et ensuite, il y a des actions qui sont mises en place. Nous, on dit, d'après son droit, il n'y a pas de développement touristique possible tant que vous ne serez pas mis d'accord sur une stratégie de développement touristique. Le 1, il est plutôt sur cette étape.
Oui, moi, je pense que cet enjeu, il est important, mais par contre, dans cet enjeu-là, on doit aussi mettre en lien la stratégie développée sur le PNR avec la stratégie plus globale sur les Alpes maritimes.
C'est la cohérence avec le reste du département.
Non.
Pardon. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter quand vous prenez la parole, s'il vous plaît, qu'on sache. Merci.
Oui.
Oui.
Vous n'êtes pas en train de dire que vous voulez que ça soit la même. Ah non, parce que c'est la même. Je pense qu'il y a des rôles libres, parce que les gens peuvent vous donner un numéro de code, ils ont raison. Donc simplement, il faut qu'il y ait une coordination, une complémentarité,
voilà,
qu'il y ait cette question
d'accord.
On est d'accord.
Oui, bien sûr.
Mais pour faire ça, il faut avoir des actions concertées avec les autres, et les acteurs qui sont autour et qui travaillent sur cette thématique. C'est ça que je veux dire. C'est votre politique. Mais en ayant conscience des autres et en voyant s'il n'y a pas des articulations possibles. Si jamais, je dis n'importe quoi, si le CDT, je ne sais pas si le comité départemental de tourisme est présent.
Certes, on a un CRT à l'assistance
telle que Marie. Si la quête de promotion nationale et internationale vend votre territoire sans vous en parler, vous n'allez pas être très content. Si vous n'avez plus l'habitude de travailler avec un temps, je vous explique comment ça se passe chez nous le tourisme et qu'est-ce qu'on veut comme type de tourisme. Ben, il pourra le relayer un peu plus finement par rapport à sa stratégie régionale. C'est pareil pour le GPR. C'est pour ça qu'il y avait un jeu de stratégie.
Oui. Bon, Richard Leroy, je me suis déjà présenté. Je ne trouve pas la différence faite entre ce que vous appelez le tourisme durable et ce qu'on peut dénommer comme l'écotourisme, sachant que le tourisme durable, c'est plutôt un tourisme consommateur, et l'écotourisme, c'est un tourisme plutôt acteur, en connexion avec les activités du territoire.
On arrivera ça un peu plus tard, mais la charte européenne du tourisme durable, je pense que ça doit être un des thèmes, enfin, une des branches sur laquelle on va marcher pour voir ça consiste. Je suis d'accord avec vous sur
la notion d'écotourisme.
Oui, mais je pense qu'on est incapable aujourd'hui de
Oui.
Qui est d'accord pour dire que si on est plutôt sur le capitalisme ou plutôt sur le tourisme durable?
À ce moment-là, on est sur les deux durables.
Dans un premier temps.
Non, mais en fait, on est sur les deux durables. Pourquoi mettre plutôt sur les durables? Pourquoi pas écotourisme?
Parce que
le tourisme durable,
c'est une chose, et écotourisme, c'est au-dessus.
Ce qui me semble important.
Je pense que dans la sous-commission tourisme, on affinera peut-être les différentes définitions de ce que c'est que l'écotourisme et tourisme durable.
Pour rester sur le 1, définition, n'oubliez pas, d'une stratégie sur les 49 communes.
Voilà.
C'est ça qui est important. Mmh. Je pense qu'un certain nombre de services de tourisme présents ici et qui sont sur nos différentes communes, il faut bien, dans la mesure où on va être dans le périmètre du PNR, qu'il y ait une stratégie commune, je dirais, de développement de ce tourisme, raisonné, durable.
On met tout
ce qu'on veut. L'important, c'est est-ce qu'il est important d'avoir effectivement une stratégie. La question, dans un, elle est là. Donc après, maintenant, on met ce qu'on veut. Les détails seront décidés en sous-commission.
Il faut voir aussi définir les enjeux, parce que écotourisme veut dire aussi que pour l'obtention notamment de certains labels en matière d'hébergement, c'est peut-être un peu plus compliqué au niveau des... Voilà, donc c'est bien d'être ambitieux, mais il faut voir qu'on se...
On ne l'élude pas.
Oui, mais vous n'allez pas mettre 100% des opérateurs touristiques.
On ne pourra pas.
Voilà.
C'est pour ça qu'il faut être d'abord écotourisme. Vous pouvez faire du tourisme durable, et puis si certains veulent aller...
Plus loin, voilà.
Un parcours d'écotourisme, ils le font. Mais on ne va pas faire une stratégie touristique.
Il faut que ça penser à l'ensemble du territoire, me semble-t-il.
On a fait la stratégie, je pourrais avoir la stratégie de faire le comportement. C'est une stratégie aussi.
Bon, oui, enfin, ça c'est.
Bon. On
affinera, je pense. Voilà.
On affinera en commission. Donc pour le 1, on passe au 2.
Donc le développement d'activités touristiques commerçantes et ou d'hébergement en relation avec la découverte des patrimoines. Donc moi je pense qu'il faut penser à la préservation des patrimoines culturels et comme je disais tout à l'heure, et naturels. Il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Non. Donc il n'y a pas de remarque, on laisse comme ça.
Rien à dire sur cet enjeu 2, il vous convient?
Inventaire, oui. Oui. Est-ce que vous considérez que c'est un enjeu si personne ne prend la parole? Oui.
Notamment par rapport aux pratiques traditionnelles, on pourrait préciser dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux logiques de développement durable.
Oui. Oui, il y en a. Marchand, ça peut être la vente de produits à la ferme, par exemple, si on envisage, par exemple, le montage de maisons de pays, il peut y avoir des produits vendus dans les maisons de pays, du miel ou autre, ou labelliser un certain nombre de produits qu'il faudra imaginer.
Celui-ci rapporte
oui, ça peut être de la vente de l'huile,
alors que la base des partenaires pleine nature n'est pas nécessairement
marchand
générateur d'un financier.
Bien sûr.
Les gens peuvent venir le week-end, repartir, avoir des conseils, 0 centimes sur le territoire. Là, l'idée, c'est de dire est-ce qu'on n'a pas bien nos activités traditionnelles, bien patrimoine, etc., une capacité de générer une valeur économique marchande qui va permettre ensuite de financer d'autres projets. C'est ça, cet enjeu. C'est un enjeu à essayer de valoriser économiquement marchand, de manière marchande.
Je vois dans la salle un certain nombre de partenaires avec lesquels je travaille qui ont des activités marchandes sur le territoire du PNR aujourd'hui. Donc, de la vente d'huile d'olive, par exemple, ou de miel.
Qui ne l'a pas fait.
Voilà.
Et qui ne le fera pas le jour où il va se déplacer éventuellement dans une autre région. Donc je pense que c'est ça qu'il faut voir. Point numéro 3. Apparemment, tout le monde n'a plus rien à dire sur le numéro 2.
Oui.
Si, monsieur.
Oui.
Le 3. Ah. Alors allons-y pour le 3.
Attends.
Tu le gardes. À toi.
Gilles Charles, je suis responsable de l'association Nous-Pays et je gère la Via Souterrata. On pourrait rajouter aussi accueil de collectivités. On fait tout pour les individuels, les familles, mais rien pour les collectivités. Vous avez qu'à essayer de trouver des collectivités qui veulent se loger 40 personnes. C'est très, très, très difficile dans le haut pays. Et je pense que là, il y a quelque chose à développer de ce côté-là.
Oui. Donc, collectif.
Je vais rajouter quelque chose à Gilles Charles. Je suis Gilles Lemonnier, guide de haute montagne. Il demande effectivement, ça serait intéressant d'avoir des hébergements pour des groupes importants, oui. Parce que ça n'existe absolument pas. Et également pour les professionnels aussi, avoir des facilités administratives pour pouvoir amener ces gens-là. Parce qu'on dit toujours amener des groupes. Moi, c'est ce que je fais à longueur d'année, hein. Des groupes importants, ça va de 8 jusqu'à 300-400 personnes parfois. Il y a toujours des retombées économiques pour le milieu, je le sais, soit c'est les restaurateurs, soit c'est les commerçants, soit c'est les gens qui pratiquent de l'équitation ou autre, ou même des bergers parfois. Et il y a un énorme problème au niveau régional à ce niveau-là, c'est-à-dire que on veut bien les accueillir sans les accueillir. Et ça, c'est une des difficultés majeures. Alors, tout le monde parle d'accueillir des touristes. Encore faut-il s'en donner les moyens, et pas seulement en parole, quoi, au niveau administratif, que ça soit facilité au niveau du parc, au niveau des mairies, au niveau de tout ça, parce que c'est uniquement mon casse-tête, hein. C'est pas le fait d'amener des gens ici qui est un problème à l'heure actuelle, c'est le fait de pouvoir les amener dans l'arrière-pays, au pays et moyen pays. Ce qui est, parce qu'on ne connaît, on ne sait jamais si on pourra le faire ou pas. Et c'est les dossiers qui se traitent 3-4 mois à l'avance et non pas à 48 heures près. Voilà.
Après, ça nous permet aussi d'accueillir en dehors de la clientèle individuelle, les groupes et les collectivités. Ça nous permet de les accueillir à d'autres moments de l'année que l'été notamment. Voilà. Oui. De pouvoir les amener. D'accord. Mais ça, on pourra en rediscuter au niveau des... Oui. D'accord. Il faudra qu'on liste ça bien comme il faut au niveau de la sous-commission. Lister les difficultés que vous rencontrez. Oui. Oui. D'accord. Mais il faut que. Oui. Oui. Non, mais.
Si, elle va venir, vous avez déjà eu la parole. Donc, on va laisser la parole donc à madame. Et je pense, là aussi, je vais rappeler, ça, c'est le genre aussi de points qu'il faut traiter en commission. Voilà. Donc, typiquement, à ce moment-là, il y a peut-être une problématique des groupes, on le traitera, et à ce moment-là, tout le monde s'exprimera. De la même manière, peut-être que vous serez contre, mais...
Il faut faire un enjeu spécifique, peut-être, sur l'accueil des groupes. Non, mais... Non, mais... Bien sûr. Oui. Non, mais on entend groupe, peut-être... Enfin, qu'est-ce qu'on appelle un groupe? Parce qu'un groupe, ça peut être 10 personnes, hein, enfin... Voilà, ça peut pas être traité de maintenant. Moi, je travaille à l'Office du tourisme de Grasse. Nous, on considère que un groupe, c'est à partir de 10 personnes. C'est pas forcément 400 personnes.
Hein, voilà. Voilà. Vous en parlerez un peu.
Bonjour, Véronique Ré, Pôle Azur Provence, responsable des sports. Moi, je voulais vous parler de groupes qui, pour moi, ont été oubliés, c'est les écoles. On parle de patrimoine, on parle d'accueil, on parle de... Moi, il y a de suite les classes vertes qui me viennent à l'esprit. On parle de sport, pourquoi pas les inclure également. Et si le PNR arrive à... aboutissement, ce que je souhaite du profond du cœur, pourquoi pas que ce PNR serve de réservoir pour des classes ou voilà. On a un patrimoine formidable dans l'arrière-pays et on a oublié le volet éducatif.
Je pense que ça va être traité en commission environnement parce qu'il y a une activité sur
la mission, la quatrième mission des parcs naturels régionaux, c'est d'accueillir des bouquets.
Voilà. Mais on peut le rajouter.
Oui.
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 D'accord, monsieur.
Oui, moi je suis le responsable du souteroscope de Baume Obscur à Saint-Vallier-de-Thiers. Et j'ajouterai au problème d'accueil, effectivement, de faciliter dans des sites touristiques comme les nôtres, et en l'occurrence comme le nôtre, faciliter une certaine, au niveau infrastructure, quoi. C'est-à-dire que aider, lorsqu'on est dans un site naturel, déjà, a priori, on est dans une zone qui est inconstructible, qui est d'un accès difficile, parce qu'on est en pleine nature. Et que dans des lieux comme ça, lorsqu'il y a un intérêt patrimonial important à faire découvrir au public, il faut aussi faciliter l'accessibilité, la réglementation sur place pour autoriser à ne serait-ce avoir quelque chose de décent à construire pour pouvoir accueillir les individuels comme les groupes.
D'accord.
Voilà.
Non, moi je pense que effectivement c'est ce que disait Flore et vous disiez le tourisme c'est quand même un vaste domaine, donc ça peut pas être traité comme ça aujourd'hui, c'est impossible, mais il faut faire des transversalités. J'entendais parler des écoles, ça ce sont des transversalités, et c'est vrai que si on ne va pas au plus urgent, on n'y arrivera pas, et c'est quand même, et vous l'avez dit pour certains, c'est l'accueil, si on n'a pas d'accueil, si on n'a pas des hôtels, c'est ça que va développer, il me semble, dans la charte, il faudra le tourisme, tous ceux qui vivent de tourisme, développer ces thèmes-là. Et je pense qu'en sous-commission, on va pouvoir effectivement beaucoup mieux le traiter, et moi je vois, pour être vice-présidente du pôle touristique du Pays de Grâce, qui va jusque chez vous, peut-être pas dans le haut pays, mais tout le moyen pays, on se pose ces questions. Et c'est vrai qu'on va devoir aussi regrouper avec des structures qui vivent déjà et qui vont pouvoir vous apporter leur expérience. Je pense qu'effectivement, moi je crois qu'un développement dans le PNR sans une hôtellerie, sans des gîtes ruraux, sans des accueils à la ferme, sans des routes viables, ça me paraît être un grand enjeu, parce qu'il faut y arriver, il faut arriver dans vos hameaux, dans vos communes. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire.
Monsieur, ça va de soi.
Bonjour, je suis agricultrice bio et j'ai un gîte labellisé accueil paysan.
D'accord.
Dans l'arrière-pays. Et moi, les gens qui viennent chez moi, ils viennent parce qu'il n'y a que quelques sentiers, que le paysage est beau, que c'est sauvage et que c'est pas du tourisme organisé. Justement, c'est l'aspect sauvage qu'ils aiment et c'est ça qu'on voudrait préserver, c'est l'aspect sauvage. C'est pas développer le tourisme et transformer notre endroit pour faire du tourisme. C'est pas ça l'objectif.
Oui, mais c'est pas contradictoire hein, de vouloir structurer l'offre touristique on voit bien les contraintes en matière d'hébergement par exemple, si on veut accueillir un gîte, ça ne peut être maximum que 5 chambres, donc 10-12 personnes, on va vite être limité en termes de...
Ouais.
On va... Oui. Bien sûr. Vous savez, pardonnez-moi, je voudrais répondre parce que je ne peux pas laisser dire ça. D'abord, nous avons quand même à Grasse et dans le moyen pays développé l'accueil à la ferme. Nous faisons des événements sur l'agriculture, des vitrines. Je vous assure qu'on pense complètement à vous, au pastoralisme, parce qu'on a bien conscience, on l'a dit ce matin, c'est dommage de le répéter, que sans vous, sans cette bouffée d'oxygène, on n'y arrivera pas. Et pour les générations future, on ne va pas répéter ce qu'on a dit ce matin, mais je répondrai à madame.
Vous savez, c'est ce que je disais aux gens de l'Office national des forêts ce matin, nous pouvons être des auxiliaires, des offices de tourisme, de vos auxiliaires, auxiliaires du PNR. Pourquoi ? Parce que nous ferons partir nos touristes chez vous, avec des normes, avec des normes. Oui, mais il y aura des normes. Mais alors tout va bien, alors. Eh bien, tout va bien, on est d'accord. On peut avancer. Super, super.
Il y a plein de structures qui existent en ce moment là-haut. Et je vous garantis, je vous invite à venir chez moi en hiver. Pendant 4 mois, il y a les trophées, tu veux y aller le samedi, le dimanche.
C'est toujours, oui.
Il
n'y
a pas un champ.
Oui.
Il ne chauffe pas les salles parce que ça ne vous pas. Voilà. La réalité alors, est là aussi. Alors si c'est pour deux choix de l'année,
je vais me répéter. Gardez ça pour vos sous-commissions. Ouais. Je vais rajouter quelque chose qui est important.
Inscrivez-vous à la sous-commission tourisme.
Je vais rajouter quelque chose qui est important. Vous avez entendu dans la présentation, il va y avoir une cartographie. Alors, cette cartographie aussi tiendra compte, entre guillemets, des problématiques du territoire.
Enfin, donc, je pense,
cette catégorie, elle va tenir compte à ce moment-là des caractéristiques du territoire. Il y a peut-être des endroits où, effectivement, il ne va pas y avoir un tourisme de masse, parce que ce n'est pas voulu et ce n'est pas ça qu'on va vouloir. Ce n'est pas ça que vous voudrez. C'est tout. Donc, non, attendez, parce que sinon, on est... Donc, pensez bien, cette cartographie sera faite, et on étudiera à ce moment-là la problématique... Non, mais, allez-y.
Je comprends que grâce à... Je comprends comment c'est structuré, je veux dire, envoyer des gens...
C'est indéniable. Mais après, essayer de voir pour envoyer du tourisme, pour le garder sur Grasse, alors que le problème, on le sait que ça a été une infrastructure au départ des villes. Mais ce qu'il y a là-haut, il y a des outils en place. Ces outils, il faut les maintenir, les développer. Faire des grosses structures, ça ne tiendra pas. Ça passera pas.
Bon, je pense qu'il faut rentrer dans le détail. Inscrivez-vous à la sous-commission tourisme et on en débattra plus en détail. Bien sûr, oui. Oui. Alors, étudier le développement en fonction des zones géographiques.
Si vous commencez à
alors, si vous, enfin, il faut bien comprendre que le parc naturel régional, sa vocation, c'est de faire dialoguer les gens. Donc si, dans une réunion où on est à peine censé travailler sur des enjeux, vous commencez à vous dire que vous n'êtes pas d'accord, vous n'allez pas aller très loin. Par contre, si vous êtes tous sur « on n'a pas la même position, on n'a pas les mêmes attentes », on se donne rendez-vous et on discute. Et on trouve un projet de développement touristique, vous y arriverez. Mais je veux dire, je sens un petit peu de tension et d'animosité, c'est pas la vocation d'un parc naturel régional. Et si vous donnez cette image au Conseil national de la protection de la nature, au ministère et aux instances qui vont labelliser le parc, on est mal barré. Donc, par contre, que les choses soient claires, votre position est tout à fait compréhensible et je la comprends. Moi-même, je suis un montagnard, je vis en Auvergne, je suis un marcheur, donc je sais ce que c'est être dans des endroits où il n'y a personne, et je les cherche aussi. Mais il y a aussi d'autres formes de tourisme. La question, c'est, sur ce territoire, quelle forme de tourisme ? Peut-être qu'à certains endroits, et c'est ce que disait monsieur, il y a une forme de tourisme, à un autre endroit, il y a une autre forme de tourisme, mais il faut en parler, et il faut le discuter ensemble. Voilà. Donc je vous invite à rester calme et à discuter de ça lors d'une réunion. Il n'y a pas de gens qui vont imposer quoi que ce soit à quiconque. Discutons et disons quelle est la forme de tourisme à tel endroit, ici, là, etc. Moi, ce que je dis simplement, c'est que dans le diagnostic, j'ai senti qu'il y avait des gens qui... Attendez, laissez-moi terminer. J'ai compris ça. Je dis simplement, j'ai le privilège d'avoir le micro, je suis désolé, mais ce que je dis, c'est que dans le diagnostic, Vous avez dit, il y a des endroits où il y a une pression touristique. Il y a des endroits où on n'est pas du tout, c'est plutôt très calme, il n'y a même personne. Donc on a des diversités de situations sur le territoire. Quelle est la forme de tourisme? Quelles sont les actions qu'on doit mener pour gérer ce tourisme-là? C'est pas le même dans les, enfin dans le haut pays et puis dans les moyens, dans le moyen pays et puis sur la périphérie de Vence, Grasse, etc. Donc quelle est la forme? C'est pour ça que je disais l'enjeu principal. C'est le numéro un. Voilà. Donc il faut que la prochaine commission, vous travaillez là-dessus. C'est quoi là? Vous êtes sur le développement de tourisme durable? Vous êtes sur l'écotourisme? De l'écotourisme plutôt ici, du développement durable plutôt là, et du tourisme de groupe là? Discutez de ça. On va pas le faire cet après-midi, mais ça sert à ça un parc. Et vous y arriverez peut-être pas en commission, vous y arriverez peut-être pas au moment de la rédaction de la charte, et peut-être que la charte, sa vocation, c'est pendant 3 ans d'apprendre à travailler ensemble sur cette diversité-là. J'en sais rien, moi, je vous connais pas assez. Mais ce que je veux dire, c'est rester autour de la table, sinon on n'y arrivera pas. Ouais. Voilà, donc vous donnez rendez-vous à la sous-commission tourisme. Alors, pour aller un peu plus loin.
Je suis désolé d'avoir mis le feu aux poudres, je pensais pas qu'en parlant de groupes et collectivités, ça allait mettre le feu aux poudres. Non, mais... à savoir qu'avant, je travaillais avec 7 colonies, il ne reste plus qu'une seule colonie. Les capacités d'accueil de groupes, je parle pour moi enfants principalement, elles étaient là, elles ont toutes fermé une à une pour multiples raisons. Donc c'était simplement de redévelopper en quelque sorte ces accueils de groupes qui existaient mais qui n'existent plus. À l'heure actuelle, il y a vraiment une pénurie au niveau de groupes d'accueil, pas 400 personnes, c'est peut-être exagéré, mais au niveau des... Vous avez essayé de trouver dans le haut pays, accueillir des groupes, des classes de découverte, c'est très très compliqué. Moi j'y arrive pas, donc les gens ils viennent et ils repartent aussitôt, enfin sur tous les groupes. Tout est développé, l'individuel, les familles, mais il n'y a rien sur les groupes enfants ou collectivités qui voudraient rester un peu et qui restent quelquefois pour faire des stages. Je prends le cas très simple, le dernier stage, la Fédération Française de Spéléologie a voulu organiser un stage d'initiateur spéléo à la colonie d'Andon, je cite des noms. Ils ont refusé. Les prix ont augmenté de 70%. Ils sont allés ailleurs. Ils n'ont pas pu le faire. Voilà, c'est un exemple concret.
Voilà, donc il s'agira de mailler le territoire, le territoire du parc, de quelques sites où on pourra éventuellement accueillir des groupes, mais enfin, sans favoriser un développement, un tourisme de masse complètement.
Allez, numéro 4.
Voilà, donc on a rajouté, madame, donc... Voilà. Est-ce qu'on est d'accord sur le 3 avant de passer au point 4? On est d'accord. Donc, le point 4, la mise en place d'une gestion concertée des activités de pleine nature, y compris motorisées, afin de partager l'espace et de trouver le juste équilibre entre l'ouverture au public et la préservation des espaces et espèces naturelles sensibles.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je crois
que la commission tourisme va être animée, il me semble. Hein.
Je suis motard. Épargnez-moi. Oui, alors je m'interroge effectivement sur cet ajout entre parenthèses, parce que ça peut être compris dans le reste, donc peut-être enlevons la parenthèse. Et je voudrais... Oui, juste une parenthèse, bon.
Si vous enlevez la parenthèse, ça veut dire que vous occupez pas la gestion de l'autorité,
donc ça veut dire qu'il y a... Ah oui, non, attendez... Attendez, ça peut, la gestion motorisée, les activités motorisées, elles peuvent être comprises dans l'ensemble des activités de pleine nature éventuellement. Si, justement, et c'est ce qui manque, si on rajoute en la mise en place d'une gestion concertée des activités de pleine nature en délimitant de manière très nette les zones attribuées à chaque activité, hein, de manière à ne pas empêcher les autres activités. Je m'explique par un exemple concret. Il y a dans le Loup actuellement tous les étés une activité de canyoning. Cette activité de canyoning, elle se fait d'une manière un petit peu anarchique sur toute la longueur du Loup à des endroits très différents. Ça veut dire qu'elle détruit donc les alevins, les écrevisses et tout ça, et elle est contraire à l'activité de pêche. Si on arrivait à délimiter
sans empêcher l'activité canyoning, mais si on arrivait à délimiter dans un endroit géographique bien précis l'activité canyoning et sur le restant du cours l'activité pêche, encore une, le restant du cours l'activité baignade, on arriverait peut-être à s'entendre. Donc on peut même admettre à la limite, et vous savez que je n'ai pas tellement de sympathie pour ça, les activités motorisées, mais il faut savoir les délimiter. On peut très bien, dans des carrières, il y en a des tas, par exemple, mettre des activités triales, mais l'activité triale est très néfaste pour la faune si elle s'exerce de manière anarchique n'importe où. Voilà, donc il faut bien mettre dans cet alinéa, délimiter les secteurs géographiques consacrés aux diverses activités.
Donc on reprend en fonction des zones comme la question précédente. Et puis moi je pense qu'il faudrait peut-être rajouter aussi en fonction des périodes de l'année, parce que vous parlez des alevins par exemple, c'est pas tout le temps, donc il y a des périodes de l'année plus sensibles que d'autres, notamment pour l'utilisation du loup. Pardon. Oui.
Oui, mais il y a un enjeu.
Bon, en fait, je pense qu'on va pouvoir. Donc, ok, et puis.
L'activité motorisée est déjà réglementée. Le principe, c'est que sur les voies non ouvertes à la circulation publique, il n'y a pas d'activité motorisée possible, sauf les activités pratiquées par les exploitants pour le besoin de leurs exploitations. Voilà, terminé. Donc. Ben, je viens de dire le propriétaire privé pour les besoins de son exploitation, et il est chez lui et il a besoin du matériel qu'il a besoin pour exploiter, et c'est son problème. Non mais ça c'est le choix du propriétaire et c'est pas le choix des autres, donc c'est la loi, c'est pas nous qui faisons la loi, ni vous ni moi. Bon, par contre, ce que je voudrais dire sur la mise en place d'une gestion concertée des activités de pleine nature, la loi est aussi présente, c'est le conventionnement. C'est l'article 130.5 du Code de l'urbanisme. Et la solution, elle est là, elle n'est pas ailleurs.
Ah, attendez, excusez-moi parce que j'avais oublié monsieur qui avait...
Monsieur Pasaglia de la Fédération française montagne escalade. Redondance au niveau effectivement de la réglementation, puisqu'au niveau du canyon, elle le spécifie dans l'espace et dans le temps. Est-ce qu'au niveau de la mise en place d'une gestion concertée, ça sous-entend un plan de développement aussi des activités sportives? D'accord, comme c'est écrit sur les autres alinéas, est-ce que c'est une gestion de l'acquis, de l'actuel, ou est-ce que ça sous-entend aussi éventuellement l'ouverture à de nouveaux sites de pratique, escalade, canyon, raquette et autres, ou non, justement?
Non, je pense qu'il ne s'agit pas de geler l'existant, hein, il s'agit aussi de favoriser de manière concertée et effectivement. Oui. Oui.
Oui, je voulais me...
Bon, voilà. Vous êtes OK pour qu'on rajoute éventuellement donc sur ce point-là le développement de nouvelles activités, enfin, donc de promouvoir
La question elle est-ce que l'enjeu, parce qu'on a une unanimité pour dire déjà travaillons sur la gestion de l'existant de ces activités, la conciliation de ces activités, on a une unanimité déjà sur l'enjeu de gérer et développer les activités. Oui, mais je suis pas sûr qu'on ait une unanimité.
Est-ce que vous...
Si on a pas...
Est-ce que quelqu'un est contre, peut-être, le développement?
Gérer l'existence, on est d'accord là-dessus. Déjà, on fait ça. Et en commission, vous travaillerez. Si vous voulez aller un peu plus loin, mais je voudrais être sûr que quel est le minimum
pour gérer, développer, parce que l'espace n'est pas occupé. Si on n'organise pas les choses, il ne se passera rien. C'est même pas la peine de faire un coup.
Alors, ce que je voulais souligner, c'est que. Il est question de partager l'espace. Alors, il me semble que ça donne un peu une fausse idée. Je pense que vous voulez dire qu'il faut partager le temps ou organiser le temps, la durée des utilisations. Parce que l'espace, d'abord, ça doit correspondre à un vide en général. Et partager un vide, c'est pas évident. Ensuite, ça rejoint tout à fait ce que disait M. Varone. Les territoires fonctionnent selon les lois de la République française, en termes de droits des propriétaires. Donc, c'est un peu induire en erreur que de penser qu'on va pouvoir faire des zones. Je ne pense pas que ce soit les zones. Il y a les zones naturelles existantes, comme les canyons, le canyon, la rivière ou la montagne ou autre, ça c'est exact. Mais que nous, on partage les zones, je pense, enfin nous, vous, le parc, je pense qu'il ne sera pas en nature de le faire ou qu'il va s'engager sur une voie extrêmement dangereuse et risquée, justement à cause des lois qui régissent la propriété. Voilà.
Peut-être un petit problème de droit sur les termes que vous utilisez. Quand vous utilisez le développement et la mise en place d'une gestion concertée, je pense que ce n'est pas du ressort des parcs. En revanche, ce qui peut être du ressort du parc, c'est de donner un conseil ou un appui à ceux dont c'est la compétence, à savoir les communes, l'État, le conseil général. Mais ce n'est pas au parc de dire telle activité est interdite ou pas. La loi ne le permet pas. Donc faites attention au libellé. Je crois sur le principe du... Tout le monde est à peu près d'accord sur le principe lui-même d'avoir une réflexion ou une espèce de schéma directeur de ce type d'activité sur la zone du parc. En revanche, il faut faire attention au libellé de telle manière que celui-ci n'entre pas en contradiction avec la loi telle qu'elle existe et les compétences des collectivités locales et de l'État. Donc moi, ce que je vous propose, je suis DDEA des Alpes-Maritimes, des DDEA adjoints des Alpes-Maritimes, c'est de voir avec vous à la fin de vos travaux,
on rebalaye ça
d'un point de vue juridique et on voit ensemble ce qui est du ressort, ce qui peut être du ressort de la compétence d'un parc et ce qui en revanche ne l'est pas. Ce sera un conseil, on n'est pas l'autorité compétente pour le dire, mais ce sera un conseil qu'on vous donnera avec plaisir.
Oui, là, je pense qu'on est encore à la phase de la rédaction et des enjeux. Donc, effectivement, dans un deuxième temps, on va passer à la formalisation et à la rédaction de la charte. Effectivement, là, on s'appuiera sur les textes de loi, évidemment.
Oui, rebonjour. Pour en revenir à cette question du sport... Il va sans dire qu'avec les RTT et tout ça, les gens veulent de plus en plus se mettre au vert. Donc j'ai peur, et ça je n'engage que moi, que si on ne cadre pas effectivement des zones, peu importe comment on le décline, les gens vont aller faire du sport, que ce soit marche, VTT. Ce matin on nous disait que le VTT cassait les chemins, tout ça. Donc il faut être quand même très vigilant par rapport au patrimoine naturel, de ne pas laisser faire n'importe quoi, n'importe où. Ça c'est le premier point. Ensuite, par rapport à la gestion de l'espace. Donc moi, je ne gère pas des parcs, je gère des équipements sportifs. Il est apparu que quand on ouvre des créneaux, tout le monde en veut. Et tout le monde veut faire tout. Donc il faut être aussi très vigilant là-dessus. Je ne sais pas si ça va se transposer là-haut. Quand on développe de nouvelles activités, je vais peut-être me faire taper, mais tant pis, j'en prends la responsabilité. Il faut essayer d'abord de développer d'une manière harmonieuse l'existant et après d'ouvrir sur d'autres activités et d'une manière très concertée et transversale. Ça, c'est mon avis, il n'engage que moi. Voilà.
Voilà, point 4, est-ce qu'on a fait le tour ? Là, on est discipliné, c'est formidable. On est presque dans les temps.
Ok. Donc, c'est bon ? Le point 5, le développement des produits labellisés accueil du parc. Bon, ça soulève des... Vous savez pas ce que c'est que ce qu'on met là-dedans ?
Ça voudrait dire que le parc donc pourrait avoir pour avoir des bénéfices, travailler en bénéfice commercial, en BIC, non ? développement des produits labellisés.
Il se trouve que c'est le label Parc Naturel Régional a été déposé auprès de l'INPI, donc vous n'avez pas le droit d'utiliser le label et d'apposer le label de Parc Naturel Régional quand vous êtes un acteur économique sans avoir un minimum de relations avec le parc. Il y a ce minimum et puis vous pouvez aller plus loin, c'est-à-dire développer la marque Parc, c'est-à-dire apposer sur votre miel ou sur votre hébergement le label marque Parc et avec ce label du coup pouvoir prétendre à utiliser ce label là dans vos actions commerciales, mais à condition de respecter une charte qui est signée entre le parc et l'opérateur. Donc ça se fait souvent avec des éco-ambassadeurs touristiques par exemple, ça se fait avec des producteurs de produits bio locaux, donc on peut utiliser mais sous un certain nombre de conditions. Voilà. Donc c'est surtout une identification en fait. Ah ben, de toute façon il y a des conditions nationales qui sont gérées plus ou moins par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux qui sont détenteurs de la marque Parc qui a été déposée, je crois que c'est la Fédération, ouais. Par contre après le contenu de la charte elle est négociée mais elle est assez ambitieuse et assez exigeante, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la marque Parc sans ce travail de concertation, mais c'est, encore une fois, c'est un travail de concertation entre le syndicat mixte et la commission X ou Y qui s'occupe de ça et un certain nombre d'opérateurs marchands qui décident de s'engager sur l'application de cette charte spécifique d'utilisation de la marque Parc. Dans le Jura, vous avez deux marques Parc, je crois. Il y en a une sur les produits du bois et il y a quelques producteurs d'artisanat de meubles et de petites transformations du bois. Il y a ça et puis ils doivent avoir une autre marque. Donc il doit y avoir une vingtaine 20-25 marques Parc qui sont utilisées en France, mais souvent sur des filières. Mais c'est négocié, ça met 2 ans, hein, parce qu'il faut se mettre d'accord sur les termes de la charte, il y a un travail de formation éventuellement. Donc cette labellisation, elle peut être bénéfique parce qu'elle fait c'est un élément distinctif sur l'offre économique locale, mais en même temps ça demande une exigence et le respect d'un certain nombre de critères qui sont dans la charte. Dans un charte spécifique, je ne parle pas de la charte du parc, c'est une charte spécifique à la marque. Ça peut être des produits touristiques, ça peut être des produits agricoles, ça peut être la marque peut être déclinée sur n'importe quelle activité à partir du moment où vous vous entendez sur une charte, des obligations, des devoirs, il y a une évaluation, il y a un bilan, enfin bon, il y a... Oui. Et après, vous pouvez apposer, vous allez dans le parc des Grands Causses, vous avez un miel qui fait partie de la marque Parc, donc il y a le petit logo sur le miel. Donc en plus, alors certains sont pour, certains sont contre, parce que par exemple, il y a des produits agricoles qui sont déjà labellisés, enfin qui bénéficient déjà d'une identification géographique protégée, de type AOC, etc. Donc parfois, il y a un peu à gérer ça aussi. Hein. Donc c'est plus facile avec les opérateurs touristiques où il n'y a pas nécessairement d'identification géographique protégée. Voilà. Mais on peut le faire aussi sur les produits agricoles.
C'est un label ou c'est une marque ?
C'est une marque. Non, mais dans la discussion, il y a des parcs où il y a des parcs qui ont 30 ans, il y a zéro marque. Voilà. Donc là, dans les discussions et dans les réunions, cette question a été évoquée. Donc nous, on la ressort. Maintenant, si vous considérez que ce n'est pas un enjeu primordial et que ça viendra chemin faisant, vous le développerez plus tard. Voilà.
Ce ne sera pas dans les 3 prioritaires que vous choisirez tout à l'heure.
Voilà, oui, ce sera vous.
C'est tout.
Okay. On passe au suivant. Donc le point 6, c'est la valorisation de l'arrière-pays auprès des populations urbaines en lien avec les villes portes attractives situées aux abords, Grasse, Vence, et je rajouterai Tourette-sur-Loup, on en a parlé tout à l'heure.
Telle ou telle porte, parce que pourquoi pas Saint-Césaire, pourquoi pas toutes les villes qui sont en bord, les villages qui sont en bord.
Il n'y a pas de définition stricte des villes-portes, mais il y a une espèce de jurisprudence ou une pratique sur la question des villes-portes dans les parcs naturels régionaux en France. Les villes-portes, en règle générale, à l'origine dans les textes, c'était des villes importantes, 30 000, 50 000 habitants, qui se trouvent à l'extérieur du parc, non, à l'extérieur, même pas à l'extérieur du parc, et qui travaillaient en concertation avec le parc. Je prends un exemple, le parc naturel régional de la montagne de Reims est encadré par Reims, Châlons et Pernay. Mais aucune de ces communes ne touche ou n'est dans le parc. Hein, ils sont assez loin, même Châlons est à 70 km. Eh bien, ces trois collectivités-là apportent 12% du financement du fonctionnement du parc, font partie du syndicat mixte, donc participent au conseil syndical, et essayent de mettre en place des actions de coopération pour l'accueil des scolaires de la ville de Châlons, qui les envoie dans le parc en concertation avec l'activité d'accueil du parc. Là, ils sont en train de travailler sur un itinéraire traversant Reims et Pernay, un itinéraire doux. Hein, voilà. Donc les villes-portes à l'origine, c'est plutôt des grandes villes et plutôt à l'extérieur. Avec le temps, la notion de ville-porte, ben, on s'est rapproché des petites villes, et souvent ces villes sont même pratiquement adjacentes, hein, voire à cheval. Donc il n'y a pas de définition juridique, mais par contre, il y a ce concept-là que vous pourriez travailler et vous pourriez dire grâce ville-porte du parc naturel régional et avoir un emblème autour de ça. Mais ça, c'est à travailler, c'est à définir, oui, non, voilà. Donc il n'y a pas de, un strict cadre. Par contre, on a tout intérêt à réfléchir à ça parce qu'en fait, ben, c'est des vases communicants, hein. Il y a des gens qui sont dans le parc, qui vont dans ces villes pour des services, et il y a des gens le fin de semaine, ou des familles qui vont, voilà. Donc la question de la coopération avec les villes-portes est très importante. Mais on les a cités pour exemple, on n'a pas...
Ah, une question encore.
Pas une question, mais juste un complément sur cet enjeu. On peut dire, peut-être sans se tromper, et peut-être sans exagérer, que le futur PNR est déjà quand même un espace de récréation pour les populations du littoral. C'était cité comme une menace, mais je pense que c'est déjà en partie une réalité. La question, c'est justement d'arriver à trouver la question du juste équilibre entre une fréquentation qui sera plutôt de type consommation de l'espace, qui sera peu génératrice de retombées, et qui pourra même générer, voire de la pollution pour des gens qui viennent à la journée, qui viennent une heure. Et le juste équilibre avec un tourisme qui est générateur de retombées économiques.
Oui, c'est un enjeu.
Il y a un enjeu, oui, tout à fait. Est-ce qu'on passe encore sur le 6 ou on passe au 7? Oui, monsieur.
Bonjour, Nicolas Forêt. Donc, je suis conseiller à la mission locale du Pays de Grâce et sur le Haut-Pays. Donc moi, c'est peut-être un enjeu supplémentaire, ou peut-être qu'on en parle dans le point 2, donc je sors un petit peu du cadre. À aucun moment, je vois parler de la promotion ou du développement des fêtes locales qu'il y a dans le Haut-Pays. Parce que je pense que c'est un enjeu touristique quand même.
C'est, voilà, oui.
Dans les pratiques traditionnelles, très bien.
Voilà, très bien. C'est plutôt dans ce cadre-là.
D'accord, merci.
On passe au 7.
Le développement d'un tourisme appréhendé comme un complément d'activité et source de financement pour d'autres activités pérennes, agricoles notamment.
Voilà. Juste à côté. Qui a levé la main?
À ta droite. Tout le monde est d'accord. Donc, ok. Donc, l'utilisation de la multiplicité des activités de pleine nature offertes par le territoire comme image pour la valorisation touristique du territoire, ski, randonnée, pêche. Là, non, il n'y a pas de... Ok, bon, c'est ok. La sensibilisation des touristes au respect du territoire, de ses habitants et de ses patrimoines. Bon, on en a déjà un petit peu parlé. Oui, pardon.
Oui.
Vous aviez... Alors, prenez la parole, s'il vous plaît.
Oui, bonjour, Fabre Jean-Marie, chasseur. L'utilisation que vous avez la 8, là, ski, randonnée, pêche et chasse.
D'accord.
C'est quand même important, quand même. Okay.
Donc, sur le point 8, pas d'autres questions. Point 9, pardon?
Oui.
Oui.
Il y a les deux dedans. Non mais, attendez, il y a des petits points, donc gestion...
Oui, on, en...
ah, on peut le mettre.
On en prendra plus dans le détail, voilà.
Dans la, la... Alors, le dernier point, avant de passer à la sélection. Ah, monsieur.
Dans le point 8, on pourrait rajouter environnemental. Mettre à côté environnement. Nature, c'est bien, environnement aussi.
De pleine nature et environnemental après, après naturel. Non.
C'est une... c'est...
Voilà.
C'est
une... voilà.
C'est utiliser, c'est peut-être un mauvais mot, mais c'est se servir du milieu naturel, c'est un mauvais mot, se servir aussi, de ce que l'on a autour de soi pour le promotionner et pour s'en servir comme activité. C'est encore un mot. Je pèse mes mots maintenant parce que j'ai pas envie de déclencher un tir de barrage.
Merci beaucoup.
Bon, c'est OK. Donc la sensibilisation des touristes au respect du territoire, de ses habitants et de ses patrimoines. Bon, ça, je pense que...
Pas... Oui. Rien à dire.
Enfin, ça me semble évident, mais bon, il y a peut-être... OK. Bon,
allez, nos que... trois enjeux, maintenant.
Alors, les trois... Pardon.
Je vous en prie, monsieur.
On est dans le côté sportif, et par exemple, nos enfants, quand il y a de la neige, ils font du ski, mais là, c'est le parent qui parle. On n'a pas un gymnase, on n'a pas un lieu couvert pour les enfants, pour le sport, la pratique de sport collectif. Il n'y a aucun club, il n'y a rien du tout. Les premiers, c'est sur Saint-Vallier. Est-ce que ce développement du sport pour les enfants de l'arrière-pays, est-ce que ça peut rentrer là-dedans? Ou est-ce que dans quelle commission ça rentre? Ou alors, c'est au bon vouloir des communes, voilà.
Alors, à partir du moment où on n'est pas en pleine nature, c'est-à-dire qu'on est sur des fonctions habituelles, normales, hein, c'est plutôt la commission aménagement et équipement du territoire, puisque c'est des fonctions de base. C'est-à-dire que ça devrait être normal que les enfants, le mercredi, puissent avoir, ou le samedi, ou le dimanche, puissent avoir accès à des lieux de pratiques sportives dans des clubs, etc. Donc c'est plutôt, on parle pas des sports de pleine nature. Là, on est vraiment sur le lien tourisme, loisirs et sports de pleine nature. Alors que les équipements de base, la chose normale pour n'importe quel citoyen, c'est d'accéder à un certain nombre de services et d'équipements. Et ça, c'est plutôt la commission aménagement et urbanisme, équipement du territoire. Bon, sachant que le parc naturel régional n'a pas une vocation sur ce sujet-là. C'est-à-dire c'est plutôt la communauté de communes qui éventuellement, ou la commune, ou le conseil général qui peut avoir, qui peut être sollicité si c'est en lien avec l'équipement du collège, etc. Mais on est plus sur la commission qui est à l'étage en dessous. Enfin, si je peux me permettre l'interprétation.
Oui, Monsieur Buti, accompagnateur en montagne. Pour revenir à la question de sensibilisation du public, je crois qu'on pourrait revenir à un travail de concertation renforcée avec les professionnels de la montagne, donc pour gérer les milieux plus ou moins les milieux difficiles, potentiellement difficiles. On parlait du canyon tout à l'heure, on parlait du VTT et de toutes les pratiques, et éventuellement en fonction d'éventuelles surfréquentations, prendre des mesures restrictives sur les milieux en question, encore une fois en fonction d'une surfréquentation, mais d'être capable de gérer en concertation régulière et de réagir en conséquence. Voilà. Et après, bon, pour revenir, il y a toute la question de pédagogie auprès d'un public scolaire. Il ne faut pas oublier que le principal vivier touristique, ça reste le littoral. Et ça, il faut savoir utiliser ce potentiel à bon escient. Voilà. Merci.
Moi, j'aurais voulu proposer un enjeu supplémentaire qui serait de travailler sur la complémentarité des saisons touristiques. Animalosa, donc, je me suis présentée tout à l'heure, puisque... D'accord. Je me présente, Animalosa, donc je travaille pour le plan local pour l'insertion et l'emploi. Voilà, donc je voulais proposer de travailler sur la complémentarité des saisons et notamment pour permettre aussi la complémentarité, la stabilité des emplois. pour permettre justement à des personnes de vivre et travailler au pays.
C'est pour ça aussi, tout à l'heure on parlait des enjeux au niveau des accueils de groupe, on sait aussi que la fréquentation touristique n'est pas la même selon les saisons, pour les groupes, les individuels notamment, et ça peut, en termes de développement des emplois et de la pérennité des emplois sur l'année, effectivement ça peut être important.
Bon, oui, excusez-moi. Oui. Sophie Allard, je n'ai pas relevé de point sur la surveillance. Parce que vous parlez de protection, vous parlez de gestion, mais je crois qu'il y a aussi un enjeu au niveau de la surveillance, de la réglementation, des groupes, du tourisme, etc. Surtout en pleine nature.
Voilà, alors c'est dans la gestion concertée, le point 7. Si aussi, enfin, je ne sais pas, tu reviens. Voilà.
Merci, je crois qu'on est arrivé au bout.
Oui. Oui. Voilà. Oui.
Je reviens.
Voilà, mais on le précisera de toute façon en sous-commission.
Bonjour, je suis donc Jean Donaro, président de l'association Omnisport des Monts d'Azur, donc développement du sport dans l'arrière-pays, dans notre très bel arrière-pays. Alors je voudrais savoir, parce que j'ai peur de me tromper de commission, j'ai peur, à vous entendre j'ai peur. Le sport de pleine nature, oui, mon association effectivement, randonnée, football et beaucoup de choses, mais j'ai peur de me tromper parce que, que va pouvoir faire, c'est une question peut-être elle est directe, peut-être qu'elle va pas répondre de suite, mais que va faire le PNR pour l'association que je représente avec le potentiel qu'on peut avoir dans la RPI au point de vue ben, tous ces jeunes qui ont envie de... Parce que moi je pense plus aux jeunes qui sont sur place que ceux qui peuvent arriver, malgré que les gens qui arrivent dans les compétitions de VTT et de vélo, effectivement ça monte, mais que va faire le PNR pour moi association sportive, alors que je n'ai aucune structure, si ce n'est bonne volonté de certains élus, j'en profite pour les remercier, et au point de vue structure, et j'ai rien, actuellement j'ai malheureusement rien. Alors que peut faire le PNR? Est-ce que le fait d'avoir pas un label, je n'allais pas dire ça, ça va m'amener quelque chose. Voilà, c'est tout ma question. Elle est peut-être... elle va peut-être... Oui. Vous allez peut-être me répondre, mais...
Enfin, je pense que le PNR va aider à la structuration de l'offre touristique locale, donc, et à la promotion. On a vu tout à l'heure qu'il y a un certain nombre d'associations, de guides accompagnateurs, etc. Je pense que on va, une fois que le parc sera créé, aider et essayer de soutenir toutes ces associations pour vous et les promouvoir mettre en relation avec vous.
Oui, c'est plus l'aménagement du territoire, voilà. Donc effectivement c'est pas forcément la bonne commission. La seule chose c'est que le tourisme en l'occurrence sera un observatoire, puisque les professionnels du tourisme donc vous recensez éventuellement les besoins du tourisme bien entendu, mais vous allez voir qu'aussi en général le tourisme il recentre et il recueille le ressenti, je dirais, en même temps de la population, puisqu'on est relativement proche. Donc il mettra peut-être en évidence le besoin d'une infrastructure sportive, peut-être à plus à vocation touristique que locale, mais on mettra en évidence. Et mettra en évidence auprès de qui? Le parc, c'est-à-dire auprès simplement des communes. C'est-à-dire qu'elle dira aux communes à un moment donné, en tant que conseillère, elle dira, eh ben voilà, on ressent à ce moment-là qu'il y a un besoin en matière d'équipement sportif, qui sera plus orienté vers le tourisme, ce sera, mettons, le tennis, pour parler de ça, qui peut être plus facilement pratiqué, qu'autre chose, mais elle va à ce moment-là remonter toutes ces informations que les communes à ce moment-là prendront en compte dans leur projet d'équipement. Ça ne dépendra pas du parc, on sera simplement, le parc sera conseilleur. Qu'est-ce que va faire le parc aussi? Ben, il va regarder aussi l'homogénéité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va dire, il y a déjà un stade de foot ici, il y a déjà... Donc il va regarder éventuellement, lui, au-dessus, la vision globale de l'aménagement. Ça, c'est la commission aménagement, je dirais, qu'il fera.
Bah, oui, mais disons que la commission tourisme, la sous-commission tourisme rejoint pas mal d'autres commissions, je pense. Mais là, ça viendra peut-être dans un deuxième temps où on essaiera de voir comment on peut articuler les choses. Oui.
Merci.
Non, 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 bien sûr.
C'est pas les organismes de touchés qui sont des forces.
Non.
Oui. Non. Je suis d'ailleurs, je vous le dis, hein, comment ça se passe ailleurs. Vous avez tout intérêt à travailler avec des partenaires qui sont extérieurs, parce qu'à un moment donné, il faut que vous harmonisiez vos politiques. Et si effectivement vous dites, là-haut, c'est un territoire, et vous entendez tous, c'est un territoire qu'il faut préserver avec un tourisme d'excellence, très individuel, enfin très sauvage, enfin, je sais, très particulier, il faut envoyer ce message avec les opérateurs, etc. Alors, si vous le faites, si vous ne les mettez pas dans vos conditions, vous ne pouvez pas. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui définissez, puisque c'est les communes qui adhèrent, donc c'est les habitants des communes ou les acteurs économiques qui adhèrent, mais ne pas oublier que, un, vous avez des voisins avec qui vous pouvez travailler, et en règle générale, si vous faites des taux, vous arrivez à 30 ans, hein, 21 dialogues. Deux, les gens qui payent, le conseil général, le conseil régional, et vous avez plutôt intérêt en concertation à travailler avec leur propre politique. Hein, si vous voulez de l'argent, un budget de fonctionnement là-bas, c'est 1,5 million, 2 millions, en vitesse de croisière, c'est 60-80 actions par an. Il faut quand même travailler, ne pas se refermer tout seul par son
travail. Alors, toujours sur le même de l'économie locale, juste un tout petit peu, par rapport à l'organisme, par exemple, est-ce qu'il pourrait y avoir dans les enjeux de d'essayer d'aider à développer l'organisme quand c'est organisé au niveau local? Parce que là, il y a pas mal de choses qui viennent, je ne sais pas, qui viennent de. Des gens qui viennent de. D'autres,
oui. Oui. Là, on rentre un peu, voilà, on rentre peut-être un peu trop dans le détail. On l'abordera sous commission. Je pense que vous parliez des villes-portes. Je pense qu'il faut, il faut se placer plutôt en complémentarité qu'en concurrence ou avoir peur des grosses localités du littoral. On travaillera bien évidemment en concertation et on est très très attaché à ça.
Mathilde Legon, Agribio, c'était juste une question, peut-être plus sur la forme. Tout à l'heure, on a parlé d'écotourisme. Est-ce qu'on pourrait pas le ramener à côté de la question de labellisation? Le point 5, le développement des produits labellisés accueil du parc et labellisé écotourisme, peut-être?
C'est différent.
Je pense qu'il faut déjà vous entendre. Voilà. Quelle est la forme de développement touristique que vous voulez?
Oui.
Et à l'intérieur, vous traitez la question de l'écotourisme.
Oui.
Après, la marque par la labellisation, c'est un outil. Vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas. Mais mettez-vous déjà d'accord, ensemble, à la prochaine commission, mettez-vous d'accord sur quelle forme de développement touristique.
Enfin, ce que je vous propose, c'est pour la sous-commission, quand on se réunira, de bien voir les définitions des enjeux de ce que c'est qu'un écotourisme, tourisme durable, etc., pour que vous saisissiez bien de quoi il s'agit. Je pense qu'on va conclure s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, donc on définit les priorités. Pardon. Oui, je pense aussi. Ouais.
Ça ne constitue pas un enjeu en tant que tel.
Moi, je pense que de toute façon, la placer, enfin, c'est peut-être pas défini clairement, mais c'est défini dans la définition des stratégies de gestion. Donc le point 1 reprend ça, il me semble.
Allez, les trois enjeux.
Voilà, alors les trois enjeux principaux. Ah, je pense que le point 1, enfin, je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre le point 1 dans les enjeux principaux? Vous levez la main, s'il vous plaît. Oui, bon, c'est visiblement. Voilà. Alors, le point 2, enfin, pour moi, ce ne serait pas un enjeu principal, mais non. Le développement des capacités d'accueil en milieu rural, le point 3. Non, moi, je... Voilà, aussi. Oui, oui, peut-être que tu peux le rajouter. Voilà. Mm-hmm. Voilà. Bon. 1.3, le développement et la mise en place d'une gestion concertée des activités de pleine nature. Voilà. Bon, là, on a à peu près, donc, on va revoir. Donc, voilà, le troisième, c'est. Le point 4. Ouais.
Ok, vous êtes d'accord sur ces trois points principaux ?